Bienvenue, vous écoutez Fréquence 6.
Aujourd'hui sur Fréquence 6, nous vous proposons une enquête sur la résidence scolaire et un point sur les nouveaux règlements autour des masques.
N'oublie pas Maya et Emma qui nous parleront de la fête de Pâques.
Justement Emma, dis-nous-en un peu plus sur votre sujet.
On va vous raconter comment le chocolat a été associé avec Pâques.
Nous avons une autre Emma en studio aujourd'hui. Avec Émilie, elle a cherché les dates qui ont marqué l'histoire récente du port du masque en Ontario.
Justement, vous vous souvenez-vous quand, pour la première fois, un médecin nous a encouragé à porter le masque à l'intérieur en Ontario? Eh bien, vous n'allez pas me croire. C'était il y a 2 ans, le 6 avril 2020.
Merci les filles. Mais commençons cette émission avec Chloé.
Aujourd'hui, on parle du restaurant scolaire. Laura Malvial, notre directrice du pôle vie de l'élève, est avec nous pour cette rubrique. Et oui, d'ailleurs, Chloé vient de nous rejoindre en studio.
Chloé, c'est à toi.
Avez-vous remarqué des changements au restaurant scolaire ces jours-ci? La Web Radio a décidé d'enquêter pour vous sur ce sujet. Le 4 février dernier, le conseil de la vie collégienne et lycéenne, que vous connaissez sous le nom de CVCL, avait une réunion au sujet du restaurant scolaire. Les élus ont partagé leurs expériences à la cantine. Un lycéen a parlé de la quantité de couverts en plastique utilisés et du gaspillage des aliments. Une autre élue a expliqué pourquoi elle n'aimait pas le goût du repas. Les CVCL représentent l'intérêt des élèves du lycée, alors nous avons tous décidé d'améliorer la restauration proposée en travaillant avec l'entreprise de restauration. Afin de comprendre cette démarche, demandons à Laurent Malvial de nous expliquer ce projet.
Pourquoi avez-vous essayé d'engager une réflexion avec des élèves sur la restauration scolaire?
Alors, on a fait une réunion avec les élus du CVCL pour qu'on ait une idée et qu'on puisse réfléchir ensemble sur ce qu'était le restaurant scolaire et l'offre. C'est vrai que c'est une pause importante que les élèves apprécient, et donc on voulait vraiment avoir un retour des représentants, puisque c'est vous qui utilisez ce service-là. Donc c'était très intéressant, puisque les élèves avaient préparé et avaient posé des questions à leurs camarades. L'objectif de cette réunion, c'était vraiment de pouvoir ensuite proposer une offre au plus près des attentes des élèves, qu'on ait tout leur retour pour vraiment pouvoir l'ajuster.
Quel a été votre rôle dans les débats et quel sera-t-il par la suite?
J'ai animé cette réunion avec deux de mes collègues, Aphrodite, la directrice des communications, et Alain Sabori, le directeur des opérations, et on était accompagnés aussi de Lucie, qui travaille pour Chartwell, donc l'entreprise qui s'occupe de la nourriture dans le restaurant scolaire. Et donc on a posé des questions aux élèves sur la qualité des aliments, sur les quantités, sur les prix, sur la diversité des plats également. Et on a aussi beaucoup parlé de la place du développement durable, par exemple la place du plastique au restaurant scolaire, sur le recyclage. Et Lucie de Chartwell a pu nous faire part des marges de manœuvre qui étaient envisageables dès cette année, et surtout les marges de manœuvre qui seront les plus importantes à partir de 2024. Donc c'était un échange très riche pour avoir une perspective dans la négociation de ce nouveau contrat.
Êtes-vous optimiste par rapport aux modifications demandées?
Oui, parce que je le suis toujours, et que les demandes ont été construites et entendues. Les élèves avaient vraiment travaillé sur ces questions-là, et donc toutes ces demandes feront partie de la négociation pour le nouveau contrat. Je manquerai pas de souligner que les élèves se sont investis dans cette réflexion, et c'était vraiment très important, puisque comme je le disais au tout début de mon propos, c'est vous qui utilisez ce service, et donc on veut être au plus près de vos attentes. Il y a des choses qui sont plus négociables que d'autres, on reste toujours en accord avec un équilibre alimentaire. C'est aussi l'opportunité d'éveiller à l'éducation, à l'alimentation. Mais toutes les propositions des élèves sont toutes rentrées dans ce cadre-là, donc ils avaient aussi conscience des bienfaits que la nourriture peut apporter.
Combien de temps pensez-vous que ça va prendre pour être mis en place?
Toutes les questions liées aux quantités, aux qualités, au prix, à la diversité, il y a des choses sur lesquelles on a commencé à travailler dès cette année, dès maintenant. Lucie a entendu la parole des élèves. Après, toutes les questions organisationnelles rentreront en jeu dans la réflexion sur la négociation du nouveau contrat. Et je pense notamment à tous les sujets soulevés sur la place de l'environnement et du développement durable dans ce service-là.
Merci beaucoup.
Merci Chloé.
Merci beaucoup. Nous sommes heureux de constater que les élèves sont sollicités pour donner leur avis dans l'établissement.
Passons maintenant à Emma et Emiliane pour un sujet qui vous concerne tous.
Emma et Emiliane, vous allez nous parler des masques et des restrictions face à la COVID-19, qui, malgré l'assouplissement des mesures, ne signifie pas que c'est la fin de la pandémie.
Eh oui, Sybille, malheureusement. Les masques font maintenant partie de nos vies. Depuis le mois de décembre 2019, le Covid a bousculé nos façons de vivre. Le premier grand changement pour nous que le coronavirus a provoqué, c'est la fermeture des écoles et des garderies le 14 mars 2020. Est-ce que vous vous rappelez pour combien de temps les écoles étaient supposées fermer? Jonah, tu te souviens?
3 semaines?
Presque, 2 semaines. Incroyable, non? La fermeture était décidée jusqu'au 27 mars. On s'est rendu compte en enquêtant qu'on a perdu le souvenir de la chronologie de ces événements.
C'est pourquoi nous avons recherché toutes les directives pour le port du masque en Ontario depuis 2 ans. On ne va pas tout vous rappeler, mais quelques événements tout de même.
Alors, Sybille, à quelle profession, après les médecins, on a recommandé le port du masque? Une idée?
Les professeurs, peut-être?
Eh ben non, c'est les chauffeurs de bus au Citranspo le 6 mai 2020.
Quand, à votre avis, le port du masque a été obligatoire à l'intérieur? Jonah?
Aucune idée.
Le 6 juillet, 6 mois après le début de la pandémie. C'est le docteur Vera Etchez qui l'a annoncé pour Ottawa.
Enfin, pour la rentrée de septembre 2020, tous les élèves depuis le CM1 jusqu'à la terminale, donc à partir de 9 ou 10 ans, devaient porter le masque. Mais finalement, la recommandation s'est étendue jusqu'aux classes de CP. C'était extrêmement étrange pour tout le monde de ne pas voir le visage des autres. Les professeurs ont essayé toutes sortes de masques. Les transparents, les visières, on avait du mal à parler et se faire entendre.
Ça semble très difficile pour tout le monde. Au début, on n'arrivait pas à monter les escaliers et il fallait toujours qu'on nous rappelle de le mettre parce qu'on avait du mal à y penser. Aujourd'hui, on oublie même qu'on porte un masque.
Bref, depuis lundi le 21 mars 2022, nous ne sommes plus obligés de porter un masque au lycée. Mais cette permission n'est pas offerte à tout le monde. Savez-vous quelles professions sont encore obligées de porter un masque?
Je dirais les travailleurs de la santé.
Oui, bien entendu. Les médecins et tous les soignants, mais aussi les chauffeurs d'autobus qui n'ont donc jamais arrêté de le porter depuis le 6 mai 2020. Voilà alors aujourd'hui, on peut se demander pourquoi certains élèves ont-ils cessé de porter un masque et pourquoi d'autres le portent-ils encore? Vous aussi, vous voulez le savoir? Alors ne manquez pas nos interviews.
Pourquoi gardez-vous votre masque?
Au début de Covid-19, c'est bizarre, mais je voulais pas du tout le masque. Je détestais ce truc. Mais à la fin, en 2022, j'ai constaté que c'est mieux d'avoir un masque que d'être malade et sentir que tu avais une solution qui était juste devant toi et tu ne l'as pas utilisée. Ça, c'est pourquoi j'ai gardé mon masque.
Je garde mon masque parce que je me sens en sécurité. Même si ça n'a pas changé grand-chose, je me sens comme si la Covid peut m'atteindre moins facilement.
Pourquoi ne gardes-tu pas ton masque?
Parce que ça me gêne un peu quand je parle avec mon masque et c'est pas vraiment agréable. Ouais.
Je ne garde pas mon masque car le masque gêne quand on est devant sur le tableau et ça gêne avec nos amis.
Merci.
Et vous, retirez-vous le masque bientôt?
À présent, Maya et Emma vont vous raconter l'origine de la fête de Pâques et les traditions qui y sont liées.
Bonjour chers auditeurs, c'est encore nous, Emma et Maya, et comme c'est Pâques,
on vous a préparé une émission pour l'occasion.
Comme toute fête importante, il y a une belle histoire derrière cette tradition.
Il faut savoir que cette fête est chrétienne, mais que tous les chrétiens ne la célèbrent pas à la même date.
Par exemple, pour les catholiques, les protestants et les maronites, qui sont les chrétiens d'Orient, elle a toujours lieu le 1er avril avant la pleine lune du calendrier lunaire qui débute à l'équinoxe du printemps. Cette année, c'est le 17 avril, alors que les orthodoxes la célèbrent le 24 avril.
Après le solstice de printemps, les jours rallongent et Pâques représente la lumière du monde.
Ce n'est qu'au 19e siècle que les premiers œufs en chocolat apparaissent. En effet, d'après la tradition, on n'avait pas le droit de manger des œufs 40 jours avant Pâques.
Mais d'où vient alors le symbole du lapin?
Eh bien, il semble que ce soit d'Allemagne que vienne la légende du lapin de Pâques qui apporte des œufs aux enfants. On l'appelle le Osterhase.
Eh oui, qu'est-ce qui fait son grand retour dans nos jardins en avril? Le lapin. La plupart des pays n'ont pas de lapin de Pâques. En Finlande, par exemple, les enfants se déguisent en vieilles femmes ou en sorcières le jour de Pâques et vont de maison en maison pour demander des bonbons, comme pour Halloween.
En Italie et en Espagne, on cuit des brioches de Pâques. En Russie, Ukraine et beaucoup d'autres pays de l'Est de l'Europe, on s'offre des œufs décorés en signe d'amitié.
Pâques peut représenter des choses différentes pour différentes personnes. Alors, on a demandé aux élèves du lycée ce que Pâques représente pour eux.
Qu'est-ce que c'est Pâques pour vous?
Pâques pour moi, c'est une journée de famille. Je passe du temps avec ma famille et on cherche des œufs de Pâques.
Pâques, c'est un événement où on a une chasse au trésor, où tous les enseignants cachent des œufs et les enfants doivent les trouver.
Je trouve que Pâques, c'est une journée pour les enfants et pour tout le monde, vraiment. C'est une journée pour jouer avec beaucoup de chocolat et je trouve que c'est une journée très colorée.
Qui célèbre le printemps, qui célèbre les couleurs et tout ça.
C'est une journée pour fêter Jésus-Christ et c'est pour être avec la famille.
Pâques, c'est être avec sa famille et pouvoir manger des chocolats.
Merci.
Alors si on résume Pâques, c'est premièrement une fête familiale, ensuite on mange du chocolat, parfois on cherche des œufs dans le jardin et pour certaines, c'est une tradition religieuse.
On espère que vous avez aimé cette émission et merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Merci pour ce petit tour du monde sur les traditions de Pâques.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a donné envie de manger du chocolat. Laissons quelques instants la parole à Laura, Félix et Christophe, qui vont nous donner un aperçu des deux prochaines émissions.
Dans lesquelles nous accueillerons un présentateur de Radio-Canada et nous écouterons l'interview exclusive d'une ambassadrice canadienne actuellement en Europe de l'Est.
Le Canada est le pays avec la troisième plus grande communauté ukrainienne au monde. Aujourd'hui, cette communauté s'agrandit de plus en plus avec les réfugiés ukrainiens. Et c'est de cela dont je vous parlerai.
Comme nous animons une émission de radio, nous avons décidé d'enquêter sur un super pro qui justement travaille à Radio-Canada.
En effet, grâce à Félix, nous avons eu l'opportunité incroyable d'interviewer le présentateur vedette de la région.
Vous voulez savoir qui était dans le studio avec nous? C'est Philippe Marcoux, le présentateur de Sur le Vif à Radio-Canada.
De plus, nous lui avons posé des questions sur son travail et on en a fait une émission.
Voilà qui clôt en beauté notre quatrième émission de Fréquence 6. Nous espérons que vous l'avez aimée.
Au nom de toute l'équipe, bonnes vacances et à la prochaine sur Fréquence 6. April in Paris.
Never felt a warm embrace till